mélodie remplace la cloche dans notre bahut. Oui, c'est parti pour une petite demi-heure sur les bancs de l'école. Vous écoutez Carnet de correspondance en partenariat avec le collège Valsierre de Corte-sur-Ciel et je suis en compagnie de Jean-Marc Robin, le principal. Salut Jean-Marc.
Salut Jack.
Alors ben tiens, aujourd'hui on va vraiment pour le coup retourner sur les bancs de l'école parce que on a décidé voilà de creuser un peu dans nos souvenirs collège. Bien sûr, hein, on n'était pas au collège en même temps.
Hein. Ah non.
Est-ce que c'était mieux avant? Souvent on se pose ces types de questions pour pas mal de sujets. Bien, on va se poser la question pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que c'était mieux à ton époque?
Si je suis un élève, je te dirais oui. Parce que par exemple, au collège, on passait pas le brevet des collèges.
Ah oui?
Et non. On le donnait si tu avais de bonnes notes.
D'accord.
Voilà, c'est, tu sais, c'est Jean-Pierre Chevènement qui a diplôme national du brevet. Tu sais, je t'avais expliqué qu'aujourd'hui, c'est un petit bac. Hein. Donc, c'est vrai que si je me place du point de vue de l'élève, bah avant, tu n'avais pas la préparation et donc tout ce stress et donc tout cet effort à faire.
Ouais, donc c'était un collège tout en tranquillité, quoi, finalement. Bon, il fallait bosser un peu quand même.
Donc, je te dirais oui aussi parce que c'était mieux avant dans le sens où il n'y avait pas tous ces téléphones portables. Alors, c'est très pratique, les téléphones portables. Mais le problème, c'est que avec l'école, tu n'as jamais fini. Tu vois, j'ai le téléphone. Et donc, si tu t'es embrouillé avec des camarades, ça continue. Ça donc, tu n'as pas de pause mentale.
Oui.
Tu vois, moi, je le vois au collège parfois. Et les gamins, ils se sont embrouillés pendant toutes les vacances. Donc, ils reviennent remontés comme des... Voilà. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Ils avaient les vacances. Ils auraient dû se reposer de leurs camarades. Donc, moi, je dirais... Franchement, magique, c'est vrai que c'était mieux avant quand on faisait plus de vélo, c'était mieux avant quand on jouait davantage au foot, quand on faisait la mobylette, qu'on allait faire voir les copains ou les copines, donc c'était mieux avant.
Tu as fait ton collège où?
Alors moi j'ai fait mon collège dans un petit collège qui s'appelle de Roquemort, pas facile honnêtement, hein. Donc là c'était un peu chaud, donc c'était un collège en fait où il y avait... beaucoup de gens dont je faisais partie, hein, de milieu populaire, hein, moi je suis fils d'ouvrier, et on avait, l'époque était, on avait aussi, notamment dans les relations interculturelles, c'était vraiment compliqué, donc bon voilà, c'était un collège qui était franchement pas très sympa, où il peut y avoir pas mal de violences physiques, tu vois, donc, ce qui a changé c'est ça, c'est-à-dire que autant au niveau de la violence verbale, parfois on peut assister à une forme de montée ici, hein, mais du coup ça a changé. Beaucoup moins de violences physiques qu'avant. Et chez toi?
Moi, j'ai fait mon collège au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, donc la capitale du Cameroun, et j'étais au collège Mbala 2. Voilà, de immense collège pour le coup, très populaire aussi, hein, dans le collège, et très différent de ce que l'on peut voir en France, pas forcément dans le programme pédagogique, hein, finalement, le programme pédagogique au Cameroun, qui est un pays francophone et anglophone, donc c'est un pays bilingue, il ressemble quand même à celui qu'on peut, on peut trouver en France avec quelques subtilités par-ci, par-là, voilà. Je vais te prendre par exemple chez nous, tous les lundis, dans tous les collèges, lycées, jusqu'aujourd'hui en 2002 national. Ouais. Voilà, on hisse le drapeau. Et puis, il y a une classe qui chante l'hymne national. Tout le monde est aligné. On regarde le drapeau vraiment comme des militaires dans une caserne. Ensuite, on se met en rang pour entrer dans nos salles de classe, quoi. Voilà, c'était comme ça. Donc, ouais, à ton époque, il y avait encore la montée des couleurs, l'hymne national. C'était fini, ça, déjà.
J'ai pas connu ça. Non. On avait quand même une école mixte, hein, il y avait garçons et les filles.
Oui.
Mais tu vois, je disais que c'était mieux avant pour deux, trois petits points de détail, mais globalement, c'était quand même pas bien, c'était pas mieux avant. Quand même. Franchement, quand tu regardes, par exemple, on a parlé d'orientation, bah avant, le palier d'orientation, il commençait dès la classe de 5e. Et les copains qui étaient en difficulté, on les orientait déjà dans une classe qu'on a un peu de relégation qu'on appelait CPPN, classe préparatoire. Et concrètement, leur itinéraire, c'était aller dans une classe à part, entre élèves en difficulté, objectif CAP, apprentissage.
Et, après,
et l'orientation, c'était un coup près infernal. C'est que dans ma classe de 3e, je me souviens très bien de ça, on était, tiens-toi bien, 2 à partir au lycée général.
Ah ouais?
2 sur une classe de 27-28. Le premier et la seconde. Et puis on tire un peu la bourre avec la collègue, là, la camarade. Mais alors, j'étais dans un milieu populaire. Hein. Donc, si tu vois, donc quand tu es dans un milieu, dans un collège populaire, Les autres, ils allaient en lycée technique ou en lycée professionnel. Mais le lycée général, c'était réservé, franchement...
Vraiment, comme une élite, quoi, finalement.
Oui, bah, tu sais que Pierre Bourdieu, ce sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éducation, c'était l'époque encore des boursiers, des héritiers. Donc, moi, je faisais partie des boursiers, les bons élèves du peuple là, qui poursuivaient leurs études. Et les héritiers, les fils à papa, qui allaient au lycée d'enseignement général. Mais sinon, il y avait un tri, mais qui était un tri scolaire, mais qui était au fait un tri social aussi. Hein, c'est-à-dire que concrètement, bah, si tu étais fils ouvrier d'employé, bah, en fonction des conseils de classe qui pouvaient être très féroces, tu passais ou tu passais pas. Et souvent, tu pouvais être en lycée technique ou lycée professionnel. Donc, c'était vraiment, en termes d'orientation, c'était vraiment très, très, très sélectif.
Mais c'était à peu près pareil au Cameroun, c'est-à-dire les bons élèves poursuivaient sur la voie générale. Ceux qui étaient un peu moins bons, très rapidement, les orientaient professionnels, techniques. Donc, tous les lycées professionnels ou collèges, parce qu'il y a aussi des collèges professionnels chez nous au Cameroun, ben, ils étaient remplis à 70-80% que de gens qu'on estimait qui n'avaient pas forcément le niveau pour poursuivre des études en filière générale. Je m'arrête juste sur un chiffre que tu as donné là. Donc, vous étiez une trentaine par classe. Ça me fait toujours rigoler aussi les effectifs. Au Cameroun, tu ne trouveras jamais une classe de 30 élèves.
Oui, c'est quoi, 50
Non, même 50, c'est trop peu. Tu vois, en troisième, on devait être 90, un truc comme ça par classe. Et il y avait plusieurs troisièmes. Hein. Je me souviens, un chiffre que j'ai gardé en tête, par contre, c'est en terminale, où on était 110 dans ma classe de terminale. On n'a jamais été moins de 100 dans les classes. Donc,
j'ai pas eu ce bonheur-là.
Ouais. Donc, si tu veux, ça m'a toujours fait un petit truc lorsque j'entends les enseignants qui disent « Ah, on est 25 en classe, trop nombreux ». Ah ouais, d'accord.
Alors, l'époque a changé déjà, quand même.
Ah oui, oui. Ben, tu vois, c'était pas forcément mieux avant, mais c'était différent. À ton époque, uniforme ou pas au collège?
Ah non, pas d'uniforme. En revanche, c'est vrai qu'il fallait quand même que la tenue soit très stricte. Hein, donc, il y avait vraiment un contrôle des adultes sur les tenues scolaires.
Ouais, ouais.
Mais bon, franchement, on arrivait tous en basket et en jean, qu'on soit garçon ou fille. Il n'y avait pas vraiment de problème. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je le vois au collège, les filles, elles prennent plus soin d'elles, se maquillent, etc. Alors, on trouve que c'est bien ou pas bien, peu importe, mais à cette époque-là, non. Il y avait vraiment une séparation dans le monde de l'école où il fallait être un élève. Tu n'étais pas un élève et une jeune fille ou un jeune garçon. Tu étais un élève, le statut d'élève primait sur le statut de la personne que tu étais. Aujourd'hui, effectivement, bah, les élèves, ils veulent être des personnes et reconnus comme des personnes, donc il y a plein de traits pour se personnaliser dans leur tenue, dans leurs petits bijoux, dans leur maquillage. Bon, c'est une évolution de la société. Moi, franchement, je n'ai pas de nostalgie de cette paire de baskets. Après, au lycée, c'était sympa parce qu'il y avait beaucoup de modes. Et je trouve qu'il y a moins de modes parce que moi, je me rappelle au lycée...
Peut-être parce que tu ne fais pas gaffe, il y a toujours la mode quand même.
Ah ben, mais moi, j'ai l'impression que les modes changeaient plus vite. Alors, époque,
d'accord.
Peut-être.
Ouais.
Donc, il y a eu, moi, je me rappelle, il y a eu la mode... Un peu James Dean avec les jeans, les Santiago, ce côté un peu, tu vois,
le dandy un peu américain,
cowboy, etc. Ouais, ouais. Et puis après, on est passé à la mode, alors moi, je dirais la filière littéraire, peut-être que j'épousais davantage les modes, la mode un peu baba cool avec les sabots, l'écharpe rose, etc. Après, il y a eu la mode disco. Mon frère, il a suivi ça, il était disco. Après, il y a eu la mode punk. J'ai eu l'impression que mon lycée est traversé par les courants musicaux et les modes. Et à chaque nouveau groupe, tu changeais d'avis.
Tu changeais de style, quoi.
Et quand moi, j'étais au lycée Rascol, je m'étais étonné de ça. J'y ai travaillé comme professeur adjoint pendant 4 ans. Et en fait, bon, j'ai vu qu'il y avait une mode, bien sûr, mais je n'ai pas vu ce changement de mode, tu vois, lié au groupe, etc. Ou bien je ne suis pas assez bon observateur.
Un autre truc sur lequel j'aimerais te faire réagir, c'est sur les punitions. Quand tu étais au collège, même en filière littéraire, très bon élève, soit tu as été puni, soit tu as vu comment on était puni. Est-ce que c'était mieux avant ou comment ça se passe aujourd'hui d'ailleurs? La dernière punition que toi tu as donnée en tant qu'enseignant ou quoi, c'était recopier tant de phrases ou aller se mettre au coin?
Alors, au collège, traditionnellement, tu as des retenues, mais en lycée, tu n'en as pas.
Ouais.
Au lycée, c'est plus des avertissements, des exclusions de la classe, si vraiment tu es très pénible. D'ailleurs, c'est la punition la plus prononcée, les exclusions de classe. Parfois, honnêtement, franchement, c'est un peu un abus des collègues. Hein. Bon, bah, t'as pas ton matériel, tu restes ici. Bon,
ça, c'est souvent quand ils ont un élève en grippe, quand même, déjà un peu dans le pichon.
Ouais, parfois c'est ça. Parfois, c'est
une
ça.
Accumulation.
Parfois, c'est ça. Non, sur les punitions, moi, j'ai pas. Je trouve qu'il n'y avait pas plus de punitions, mais en revanche, je peux te dire que les profs n'étaient pas cool, quoi. Professeurs qui pouvaient, et même le chef d'établissement, je m'en souviens encore. Il fallait se ranger, tu sais, dans les temps. Et la récréation de 10 heures, un jour, je suis peut-être arrivé en retard, mais quoi, 3-4 minutes, mais j'ai pris un monstrueux coup de pied aux fesses. Mmh. Et franchement, alors c'est vrai que ça a été efficace, hein, après j'étais à l'heure. Mais j'étais surpris, je me suis retourné, c'était le chef d'établissement. Je ne m'attendais pas à ce qu'un chef d'établissement me donne un coup de pied aux fesses. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Hein.
Ouais. De peur d'en avoir un autre.
Absolument. Mais ça, je dirais que ça a changé parce que moi, ma mère, elle m'envoyait à l'école et je pouvais me tordre de douleur. Je me plains à ma mère, je dis non, maman, je peux pas aller au collège, j'ai mal au ventre. Elle me dit oui, arrête, tu vas au collège, puis c'est comme ça, tu vas au collège. Et en fait, j'étais en train de faire une crise d'appendicite. Donc après, on m'a opéré en toute urgence. Mais tu vois, à l'époque, c'est-à-dire que tu pouvais pas manquer un jour d'école.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, parfois, les parents, sur la question de la présence au collège, je le vois bien comme chez l'établissement, bon, allez, le nez coule, je me sens pas bien, allez hop, allez, ben reste ici, mon chéri. Là, du coup, c'était mieux avant. Mmh. Les élèves allaient au collège ou au lycée, ils avaient intérêt d'y aller.
Mais parce que le respect pour l'instruction était beaucoup plus présente aussi, j'ai l'impression.
Oui, et puis parce qu'on était moins dans une société du loisir, et puis parce que les parents voulaient vraiment, c'était très important, le respect des professeurs et des maîtres. Et donc,
ah ben voilà, ouais, ça.
Ça, c'est vrai que moi, j'aimais bien ce principe quand même, c'est que... Enfin, moi, je devrais pas le dire, hein, je suis allé plusieurs fois au collège malade, mais rien de grave, tu vois, tout, bon... Moi, j'aimerais revenir dessus, c'est que c'est vrai que... D'ailleurs, je disais, le chef d'établissement, là, qui m'a donné un beau coup de pied aux fesses, mais on avait des professeurs, c'était vraiment parfois des grands malades, hein. Ils étaient violents, pouvaient... on rappelle ce prof de 2M, tu n'appliquais pas suffisamment bien pour faire ta planche en bois, là, de planche à pain en bois, boum, un coup sur la tête. C'était assez, assez radical. Il y a les méthodes qui étaient très autoritaires. Je me rappelle ce prof de sciences physiques qui terrorisait tout le monde. Donc, il avait décidé que c'était un classeur, il fallait faire une ligne de 3 carreaux, il fallait une marge de 3 carreaux. Et si tu faisais 2 carreaux, il prenait, devant tout le monde, il prenait ta copie, il la déchirait.
La déchire, oui.
Ah, voilà. Donc, c'était quand même quelque chose de très autoritaire et franchement... quand je vois aujourd'hui les professeurs, ils sont plus dans le dialogue, ils connaissent mieux leurs élèves, il y a moins cet autoritarisme. C'est, voilà, je trouve quand même qu'on a progressé quand même. Hein.
Ben c'est vrai qu'à l'époque, tu changeais de trottoir les 3/4 du temps. Quoi. Il y avait une forme de peur même hein, pour les instituteurs. Et souvent, même dans les villages, quand même, c'était parmi les personnages importants hein, dans les élites d'une communauté, que ce soit, bon, on parle du chef, donc le maire, le curé, le médecin, et juste derrière, on pouvait trouver les instituts. Je peux te dire que chez nous, les instituts, c'est quelque chose. Quoi. On a parlé de l'uniforme, on a parlé comme ça de quelques valeurs du drapeau, de l'hymne qui ne se pratiquait plus. Hein. Les relations parents-professeurs ont changé aussi.
Alors, sur les relations parents-professeurs, en fait, pendant très longtemps, moi je voyais mes parents, alors c'est vrai que mes parents, ils adoraient venir à l'école parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des enfants qui ont bien tracé. Donc, ils étaient contents d'entendre les compliments.
De venir avoir des compliments.
Ouais. Mais... oui, disons que les parents aujourd'hui, d'abord, ils sont plus diplômés. Et comme ils sont plus diplômés, ils sont plus exigeants et c'est pas plus mal non plus parce que l'école, faut pas oublier que c'est un service public. Donc, on a aussi des choses à apprendre des parents. Alors, parfois, les parents peuvent être intrusifs, ne pas respecter notre sphère de compétence qui est la pédagogie. Hein. Je parle pas de l'éducatif hein, qui est partagé, mais c'est pas mal d'avoir ce retour des parents aussi. On est un service public. Moi, je trouve qu'on a aussi des comptes à rendre aux parents. Et souvent, tu vois, comme chef d'établissement, je me désole de l'absence des parents. Moi, je vois, on a fait un nouveau projet d'établissement, un questionnaire pour les parents. Bon, sur les 250 familles, j'ai eu 50 réponses. Alors, c'est vrai que c'est bien, mais moi, je me dis quand même, c'est le projet d'établissement, c'est un truc qu'on fait tous les 3 ans. Les parents peuvent prendre 5 minutes, tu vois, pour répondre au questionnaire. Alors, c'est vrai, quand on en... et que les parents peuvent pas se déplacer en journée, je le comprends. Mais il y a... quand on organise des choses en soirée, qui concernent l'orientation, etc. Donc c'est vrai que parfois on a du mal, notamment en zone rurale. Alors il y a toujours plein de raisons, hein, évoquées par les parents, la distance, etc. Quand l'école organisait quelque chose en direction des parents, les parents essayaient de mettre tout en œuvre pour venir. Tu vois, il y avait vraiment quand même, je pense, cette envie, cette envie-là.
Un truc aussi qui a dû clairement changer entre l'époque où nous avons été l'un et l'autre au collège, c'est tous ces projets que je vais estimer être un tout petit peu extrascolaires, dans le sens où certes ils sont pédagogiques, mais ils ne font pas partie à proprement parler du programme. Là d'ailleurs, tu nous as parlé de corps tertiaire, des choses comme ça, ça n'existait pas quand toi tu étais au collège.
Non, parce qu'en fait tu sais, par exemple, la notion de projet d'établissement, c'est 1989. C'est Jospin qui dit, allez, chaque établissement doit avoir un projet d'établissement. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Avant, la bureaucratie scolaire fonctionne projet d'établissement. Alors, tu pouvais avoir des établissements qui étaient plus ou moins dynamiques, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie volonté de donner plus d'autonomie, plus de place aux professeurs pour qu'ils construisent des projets. Et c'est vrai qu'on peut faire un projet qui est un peu adapté au territoire, en fonction, ça peut être plus de sport, ça peut être plus de sciences, ça peut être... par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de sorties. Hein, tu vois, dans le domaine, on emmène les élèves au théâtre, on fait venir des spectacles, on fait beaucoup plus de choses. Les élèves ont beaucoup plus de chances. Alors, il ne faut pas non plus, quand j'étais au collège... Tu vois, par exemple, si je devais retenir quelque chose de mon collège... C'est mon voyage en Allemagne. C'était le grand temps de Helmut Schmidt et de Giscard d'Estaing. Il y avait cette grande amitié franco-allemande. C'est ce voyage qu'on pouvait organiser, que les équipes organisaient chaque année pour aller en Allemagne. Ce que je constate, c'est que moi, j'ai pu en faire un premier, parce que mes parents avaient pu faire l'effort. Le deuxième fois, j'ai voulu partir et mon père m'a dit « Mais non, Jean-Marc, je ne peux pas, ça coûte 500 francs, ce n'était pas possible. » Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a... Les établissements scolaires ont des fonds sociaux.
Des fonds, oui.
Et donc, tu vois, par exemple, on a organisé un voyage en Allemagne avec Madame Huck, hein, enfin, c'est elle qui l'a organisé avec les équipes. Mais tu vois, personne n'est resté sur la touche pour des raisons financières. Parce que l'activité locale aide beaucoup, on a été aidé par les mairies, le Crédit Agricole, j'en profite pour le remercier, nous donne une petite subvention. Donc, donc aujourd'hui, ne pas aller en voyage pour des raisons financières, franchement, on a les possibilités d'éviter d'être sur la touche pour des raisons économiques. Et même sur des questions du coût de l'école, eh bien parfois, moi, à mon époque, il y avait des copains qui préféraient choisir l'orientation courte parce que leurs parents n'avaient pas beaucoup de moyens et ils savaient que ce serait compliqué de payer des études supérieures aussi. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien accompagné par les bourses et par d'autres aides.
Mais ça permet de parler aussi un peu des inégalités, hein, même si on a abordé cela, notamment avec cette histoire de port de l'uniforme, parce que cela reflète aussi comment étaient gérées les inégalités avant. En gros, elles n'étaient pas vraiment gérées, on laissait chacun un peu se démerder, non ?
En fait, tu vois, moi j'ai passé le bac en 1984, alors je ne sais pas à quel âge toi t'es né.
82, moi je suis né.
Voilà, tu vois. Donc t'étais déjà né, mais t'avais 2 ans. Ouais. Donc quand j'ai passé le bac en 84, tiens-toi bien, on était 37% d'une génération à avoir le niveau bac. Je ne parle pas du bac, à avoir le niveau bac. Donc tu vois, la machine à écrémer qui était l'école, c'était incroyable. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Donc moi, j'ai fait partie de cette génération-là. J'ai eu beaucoup de chance avec, alors que ce soit la gauche ou la droite, hein, qui ont porté cette idée de pousser tout le monde vers le haut, de faire des études supérieures, alors que mon père était ouvrier. Mes parents, ils ont arrêté leurs études à 14 ans. Hein, donc, et pourtant, si je regarde l'itinéraire famille, sœur d'université, j'ai une sœur, donc on était 4, hein, maman, c'était le modèle très... très, très classique, hein. Papa était ouvrier, puis maman s'occupait des enfants.
À la maison, mère
tu
au
vois,
foyer.
Donc j'ai mon frère qui est universitaire aux États-Unis, ma sœur qui est prof de maths, et mon autre sœur qui est cadre dans la logistique, et puis moi je suis chef d'établissement. Donc tu vois, on est tous devenus cadres. Donc tu vois, c'est une époque de on appelle ça la société montgolfière. Tout le monde montait. Et tout le monde montait grâce à quoi ? Grâce à qui ? Grâce à l'école. Donc... Il faut parfois pas l'oublier d'où on vient quand même, hein, je veux dire.
Mais ça, pour le coup, c'est peut-être un argument que je vais trouver positif pour dire que c'était mieux avant, cet ascenseur social. Aujourd'hui, on est nombreux à le dire, hein, que cet ascenseur social, il est un peu cassé. C'est pas parce que tu as des parents cadres que tu vas finir cadre, même si tu es brillant à l'école.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, comme disent deux sociologues, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne formule. Il en faut plus pour avoir moins. C'est-à-dire que tu dois poursuivre
exactement
tes études. Parce que comme tout le monde pousse des études très loin, ben par conséquent, il t'en faut toujours un petit peu plus, mais tu n'es pas assuré d'avoir un emploi qui correspond à l'emploi de cadre, par exemple. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement un diplôme, il faut aussi une motivation, des qualités personnelles. Ça ne suffit pas. Je veux dire, tu as un master aujourd'hui, tu peux être cadre dans la banque, tu peux devenir professeur. comme tu peux être employé et puis être dans des emplois sous-qualifiés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le statut social, comme il y a beaucoup plus de gens de diplômés, ben, il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour avoir un statut. Il faut d'autres qualités personnelles. Donc effectivement, on peut constater une certaine forme de déclassement, c'est-à-dire des gens qui ont des masters et qui finalement vont avoir beaucoup de difficultés à accéder à des emplois de cadre qui sont plus nombreux. Mais les emplois de cadre, concrètement, en France, c'est 25%. Mais tu vois, quand on veut monter, aujourd'hui, on est à 50% chez les filles diplômées de l'enseignement supérieur. Donc c'est clair qu'il va y avoir à un moment donné une inadéquation, un décalage entre la formation qui correspond à un emploi de cadre et puis le nombre d'emplois de cadre. Donc c'est vrai que parfois, ça peut donner un sentiment un peu de frustration ou de se dire, comme on l'entend, oh, les études, ça ne sert à rien. Pour moi, j'aimerais rappeler quand même, quand on fait des études, ce n'est pas simplement pour l'emploi. Parce que quand on se forme, ça permet par exemple parfois de créer son entreprise aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas d'emploi de cadre, mais dans une société qui te favorise la création d'entreprise, tu peux créer ton propre emploi. Et puis ça te permettra aussi d'éduquer tes enfants, ça te permettra de prendre des responsabilités dans ta commune, ça te permettra aussi de mieux comprendre la société dans laquelle tu es, ça te permettra aussi, plus tu es diplômé par exemple, plus tu fais attention à ta santé. Ou plus tu es diplômé et moins tu utilises la violence physique. Donc en fait, les bénéfices de l'éducation sont monstrueux. Donc, effectivement, si on dit aux jeunes « faites des études, c'est pour avoir un super emploi », il ne faut pas trop leur mentir. Donc, faites des études, c'est bon en soi. Peut-être que tu auras un meilleur emploi, c'est pas sûr, mais en tout cas, tu auras peut-être une vie meilleure.
Meilleure, ouais.
À la fois individuelle et collective. Donc, ça apporte plein de choses en soi, le diplôme. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois un petit peu plus dur pour les jeunes d'aujourd'hui.
Alors à ceux qui nous écoutent, hein, à vous aussi de réfléchir hein, pour savoir qu'est-ce qui était mieux avant lorsque vous étiez aux études, au collège, au lycée. Bon, c'est pas obligé que ce soit mieux, il y a peut-être des choses qui sont mieux aujourd'hui, on en a évoqué quelques-unes. Je voudrais qu'on termine peut-être avec l'un des sujets qui va nous occuper d'ailleurs tout prochainement. On l'a déjà abordé, c'est un peu les rythmes scolaires. Est-ce que le rythme scolaire était mieux avant?
J'aurais du mal à dire sur cette question-là parce qu'on n'a pas trop changé. On a essayé d'équilibrer avec cette idée, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. On voit bien qu'on ne le respecte pas trop en période de vacances d'hiver parce qu'il faut quand même remplir les stations de ski. Non, franchement, il n'y a pas trop de changement par rapport à ça.
D'accord.
Moi, ce qui a beaucoup changé, c'est la pédagogie, c'est la relation aux parents, c'est la relation aux professeurs. Enfin, moi, j'ai été prof pendant 17 ans et souvent, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec mes élèves, à les accompagner, à bien les connaître. Tu vois, quand je suis rentré dans ce métier de professeur, ce beau métier de professeur, je me suis dit, je vais essayer d'être le professeur que j'aurais voulu rencontrer. Parce que nos professeurs, on les admirait, mais tu l'as dit, ils étaient distants. Tu les admirais de loin. Moi, j'ai le souvenir d'un prof d'allemand formidable, franchement. C'est le premier qui m'a emmené au théâtre. Et franchement, je l'en suis gré toute ma vie. Mais j'aurais voulu pouvoir converser avec lui, discuter avec lui, avoir un échange, parler du théâtre, parler d'autres choses. Mais non, il y avait ce magistère, il y avait cette distance avec les élèves. Il y avait le professeur. Alors, c'était un professeur. Et il n'y avait pas ce dialogue. Ou bien, dans des occasions
un peu, la voyage, une sortie,
des choses comme ça.
Croisez en dehors du
bahut.
Alors
que tu vois, aujourd'hui, je suis chef d'établissement, je vais dans la cour, tu peux discuter avec le chef d'établissement, mais de tes vacances, d'autres choses. Et je trouve que ça donne un climat aussi, tu vois, qui est plus sympa. Enfin, il y a un climat relationnel. Et les élèves, ils aiment bien aussi que nous, les professionnels d'éducation, on n'oublie jamais que derrière l'élève, il y a une personne. Tu vois, qu'on est très attentif, tes vacances se sont bien passées, on se dit bonjour, on parle d'autres choses, on peut même parler du résultat du match de foot, d'autres choses. Mais moi, j'aurais jamais envisagé de tenir la conversation avec mon chef d'établissement dans la cour. Tu vois, personne n'y aurait pensé. Ou bien aller le voir comme ça sans prendre rendez-vous pour venir lui parler d'un truc ou lui faire une proposition. Donc, je dirais les relations sont devenues plus cool. Alors, évidemment, certains te diront que ça affaiblit l'autorité. Il faut trouver une bonne distance. Je pense qu'on peut être à la fois proche des élèves tout en ayant une autorité. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'un ou l'autre. Et franchement, il y a plein de collègues qui réussissent à faire ça et vraiment bravo à eux, quoi.
Eh bien, écoute, je vais terminer aussi par une petite anecdote. Qui était mieux avant ? C'était qu'on consommait. peut-être un peu moins d'eau dans les bahuts. Non, pardon, c'est qu'aujourd'hui, on consomme un peu moins d'eau dans les bahuts parce qu'on ne se lave plus les mains à cause de la craie. On utilise quand même beaucoup, beaucoup moins la craie aujourd'hui.
Oui, oui, maintenant c'est les feutres. Et puis surtout, on utilise beaucoup les diaporamas.
Ouais, les diaporamas et tout ça, ouais. Parce que nous, à l'époque, quand même, les pauvres profs, ils avaient les mains.
Ah oui, ça, c'est pas un truc que je regrette, hein, la craie.
Ils avaient les mains bien, bien encrayées. Eh bien, c'est la fin du carnet de correspondance sur CFM Radio. Et puis, on va terminer avec une petite chanson qui va nous ramener un peu en arrière.
Peut-être l'école pas est finie, non?
Ouais, c'est ça, l'école est finie. C'était peut-être pas à l'époque où il était au collège, lui, hein, mon ami Jean-Marc, mais on va remonter encore un peu plus loin avec cette chanson des choristes pour clôturer exceptionnellement cette émission. Et oui, un très beau film, en effet.
Il est dimanche.